D'accord, oui. Auteur, voilà, de récits fantastiques. Mmh. Hein, et vous avez des romans là qui sortent, un roman qui sort aux éditions À Lire, c'est le deuxième roman ou...
Qui est sorti l'an dernier, c'est mon sixième livre qui vient de paraître chez À Lire, s'appelle Les cendres de Sedna.
D'accord. À côté, nous avons Patrick Lajoie, hein, donc vous êtes archéologue, paléontologue et spécialiste des mythes.
J'ai été dans le domaine de l'archéologie, maintenant je suis historien des religions, spécialiste en mythologie comparée. Ouais. Tout
à fait. D'accord. À côté de moi, j'ai Sylvain Chambon, que je vais laisser se présenter. Enfin, je sais que tu écris des nouvelles, que tu t'intéresses à énormément de domaines. Bon, auteur de science-fiction. Voilà. Bon, Sylvain Chambon, auteur de science-fiction. Et à mon côté, nous avons donc Lucie Pierra-Pageau, qui a écrit un roman de fantasy, c'est cela, hein, de Houdon. Non, c'est du steampunk. Un roman steampunk. Alors, steampunk, je ne sais pas comment ça va être traduisible en langue des signes. Hein, c'est. Je te laisse en parler un petit peu, si tu veux, pour expliquer ce que c'est le steampunk.
Mais c'est complètement déloyal, ça. C'est très, très moche. Ouais, bah, merci. Donc le steampunk, c'est on prend les technologies du 19e siècle, donc charbon, vapeur, etc., et on les pousse à l'extrême pour imaginer, par exemple, je ne sais pas, une fusée qui fonctionne au charbon ou des appareils électriques qui n'existaient pas à l'époque ou des automobiles à la vapeur. Voilà. Ça va comme ça ? Oui. Je ne sais pas s'il va s'en sortir, c'est horrible. Voilà. C'est bon ?
C'est bon, merci.
Mais de rien. Ouais. C'était super agréable, merci.
On va y revenir. Et moi-même, donc, je m'appelle Timothée Ray, je suis prof de lettres histoire en lycée professionnel, hein, avec des CAP, des bacs pro. Et je suis aussi auteur de science-fiction et romans policiers préhistoriques, notamment. Je fais de la fantasy aussi, régulièrement. Et aujourd'hui, donc, pour le temps du langage en science-fiction, je voudrais faire une première partie où... On parlera pas forcément de science-fiction, mais des richesses des langues des signes. Hein, et bon, je passerai très vite sur les autres usages que pour les sourds, et je voudrais venir ensuite avec Monsieur Quentin, avec Yann Quentin, un peu sur un historique rapide et la spécificité de cette langue, par exemple pour les questions de temporalité, hein, comment on parle du passé ou du futur. Et puis aussi, bon, ça c'est quelque chose, un domaine que je ne connais pas du tout. Quelle peut être la création théâtrale, littéraire, en LSF, hein, en langue des signes française. Ensuite, bon, c'était pas une langue construite. Hein, on va voir avec Monsieur Quentin, avec Anne Quentin, ce n'est pas une langue construite complètement. Mais la suite, bon, portait quand même sur l'invention justement de langue. Et bon, il y a quand même des parties de langues construites, hein, je pense. On va revenir là-dessus. Sur et les langues construites, comme l'espéranto ou d'autres, à quoi peuvent-elles servir? Pourquoi construire des langues? Hein, ça sera une deuxième partie sur laquelle on discutera. Hein, il y a celles aussi qui sont purement fictives. Hein, bon, il y a des gens qui parlent klingon. Non, bon, voilà. Et puis aussi voir un peu dans une troisième partie peut-être ce que peut être le temps. Du langage en science-fiction. Alors, enfin, on reviendra dessus. Mais pour le moment, je voudrais donc voir un petit peu sur cette langue des signes. Alors, peut-être je vais vous laisser un petit peu la parole, en tout cas le signe. Enfin, je ne sais pas comment on dit, oui. Je vous laisse vous exprimer, hein, Monsieur Quentin. Vous exprimer, voilà. Sur, c'est pas une langue construite. Hein,
après,
c'est ça.
Ouais, bon. Je fais une intervention de 5 minutes.
Oui, c'est bah, par exemple, c'est bien, oui. Oui, oui.
Alors, vous êtes bien assis, vous êtes à l'aise, c'est bon? Pour le son, c'est bon aussi. Donc, je vais me lever pour m'exprimer en langue des signes, ce sera plus confortable. Donc, la langue des signes n'est pas une langue construite. C'est une langue qui a émergé, qui s'est construite toute seule. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est l'abbé de l'épée qui a créé la langue des signes pour les pauvres sourds isolés. Mais non, ce n'est pas le cas. C'est une mythologie, c'est une légende. La vérité, c'est que les langues des signes ont émergé déjà à l'époque de la préhistoire, à l'époque des Romains, elles étaient là. C'est vrai qu'elles étaient là déjà dans les premières décennies, les premiers siècles de l'humanité. Donc il y a un sourd qui s'appelle Déloge, qui a parlé la langue des signes dans ses écrits et qui a dit que au temps des rois, il y avait beaucoup de signes. Par exemple, les rois, les princesses ont été baptisées par des signes. Alors, je vais demander à l'interprète de couper la traduction. Alors, si on prend par exemple le blastron avec le symbole du lion, c'est vrai qu'on... Il y a toujours un problème de l'écrit, la langue des signes, qui pose des problèmes dans la recherche. En fait, la langue des signes est une langue en trois dimensions, donc la poser à l'écrit est quelque chose de compliqué. En fait, il y a beaucoup de traces qui ont été perdues à cause de l'écrit, la langue des signes qui n'existait pas. Mais par rapport au temps, en fait, il y a des la langue des signes n'est pas linéaire, c'est des choses qui se passent en parallèle. Par exemple. Alors, regardez-moi bien. Voilà. Là, en fait, c'est en un temps très court, on a beaucoup d'informations, donc des choses qui se passent dans un univers en trois dimensions. Donc, c'est difficile de mettre tout ça à l'écrit. Donc, il y a beaucoup de choses en parallèle, alors que l'écrit est quelque chose de linéaire, et donc ça limite la... ça a été compris ou je vais peut-être donner un autre exemple. Alors voilà, donc il y a un véhicule qui circule et puis on voit un avion et là il rentre en conflit. Voilà, en fait il y a deux actions en même temps dans un espace et c'est vrai qu'on peut avoir différents éléments en même temps en langue des signes. Par exemple, là une voiture qui va très vite, qui recule. Il peut y avoir des avancées dans l'espace, des reculs, et tout ça en un seul geste. Voilà, donc c'est un exemple d'une langue des signes très visuelle.
C'est simultané, c'est ça, hein, il y a la simultanéité, hein, c'est-à-dire qu'on peut exprimer des actions simultanées au même moment. D'accord, oui, ça c'est une force. Hein.
Voilà, les choses sont en parallèle. Voilà. En fait, donc, c'est le problème des traces écrites. C'est vrai qu'à l'époque, la vraie histoire, par exemple, il y avait de la langue des signes, mais il n'y a pas de traces. On a des traces, par exemple, du vieux français, mais de la langue des signes, moi, c'est mon thème de recherche. Je cherche les traces de la langue des signes, mais c'est délicat de trouver ça. Et donc là, si je peux donner un exemple. Par exemple, le signe pour les femmes. On le signe comme ça, en SF actuel. Ou femme, avec toute la main. Mais autrefois, au Moyen-Âge, on signait comme ça, femme. Parce qu'en fait, ça vient des sœurs, des frères moines qui ont utilisé ce signe et puis il s'est répandu. En fait, il est signe monastique. En fait, les moines entre eux utilisent des codes et il y a eu une influence des signes monastiques sur les langues des signes et vice-versa. Voilà, après, c'est très résumé, donc je ne sais pas si c'est très clair.
Oui, simplement, pourquoi est-ce qu'on parle des moines? Parce que vous savez qu'il y a des règles monastiques, celle de Saint-Benoît, par exemple, où les moines n'ont pas le droit de parler. Alors, bon, on peut pas se passer de langage. Et donc, forcément, ils ont élaboré, à ce moment-là, un système pour communiquer.
Tout à fait. Oui. Et justement, les moines ont créé leur signe. Et après, la langue des signes vraiment utilisée par les sourds n'a pas été créée. Là, elle s'est développée. Et effectivement, il y a eu des rencontres, il y a eu des développements entre les sourds, donc qui ont fait émerger une langue des signes. Mais après, on ne sait pas exactement comment ça s'est passé, le lien entre les deux. Peut-être que c'est des sourds qui ont donné les signes aux moines ou inversement. Donc, on ne sait pas. En recherche, les recherches sont en cours. Voilà, j'espère être assez clair.
Oui, oui, bien sûr. Et à l'évidence, les sourds, ils n'ont pas attendu que quelqu'un invente une langue des signes pour s'exprimer. Je pense, dans l'Antiquité, et même peut-être avant, quoi, il y avait des gens sourds préhistoriques, ils avaient forcément, pour communiquer, ils avaient... est-ce qu'on peut... Les signes actuels, ouais. on peut dater... pas ceux qui viennent de la baie de l'épée, tout ça. Les signes de la vraie langue, est-ce qu'on peut dater du moment de leur apparition, à peu près, au Moyen-Âge ou...
Ah non, bien avant.
Donc ils se sont transmis, y compris...
Avant, 500 ans, de 500 ans de l'humanité, oui, on peut dire qu'il y a eu une émergence. parce que les choses ont émergé en parallèle, la parole et les signes. Puis ça dépendait des populations, donc il y avait des évolutions. C'est vrai que l'utilisation des mains pour communiquer, enfin, la langue des signes est vraiment une langue depuis quelques centaines d'années, mais c'est vrai qu'il y a eu des évolutions entre les différents types de langues. Après, c'est vrai qu'une langue est quelque chose qui évolue constamment, de toute façon.
Voilà, alors, puisqu'on parle d'évolution, comment, par exemple, j'ai vu tout à l'heure pour l'avion, vous faisiez un signe, c'est l'avion, c'est ça? Comment apparaissent les mots? Voilà, c'est ça. Voilà, c'est l'avion qui vole, en fait. OK. Comment apparaissent les mots nouveaux, alors? Les toutous, avec le progrès, etc.
Après, c'est vrai que dans la langue des signes, il y a une grammaire qui s'appelle l'iconicité. En fait, c'est vrai qu'on reprend la forme d'un objet, d'une chose, pour la transformer en signe. Un bateau, un avion, il va y avoir différentes formes qui sont reprises par les signes. Donc ça s'appelle l'iconicité, le fait de se baser sur le visuel. Par exemple, une calèche, un chevalier. En fait, on peut aussi prendre le mouvement que fait la personne qui se sert de l'objet pour le transposer en signe. Donc en fait, la langue des signes peut être hors du corps ou que le corps soit investi aussi dans la langue. Il y a le corps est utilisé tout entier. C'est vrai que ça peut être utilisé comme du théâtre.
Et alors, question qui vient ensuite. À ma connaissance, mais je ne sais pas grand-chose. Donc, est-ce qu'il existe du théâtre ou du conte, hein, des gens dont c'est pas le métier,
oui,
mais en tout cas qui racontent des récits.
Oui, effectivement.
Oui. Ah, c'est quelque chose. Et est-ce que ça, bon, parce que maintenant vous parliez tout à l'heure, Yann, du problème de la trace, c'est-à-dire que la langue des signes étant en trois dimensions dans l'espace, on peut pas en garder de traces sur le papier. Bon, j'ai déjà vu ce que ça donne. Il y a les petits dessins, mais il y a peut-être pas tout. Et est-ce que maintenant, avec la vidéo et tout le monde a son téléphone pouvant filmer, est-ce que ça change des choses pour les traces?
Ah oui, ça a vraiment répandu vraiment la langue des signes. Oui, tout à fait. Le problème des traces de la langue des signes, en fait, dans les années 1300, il y a eu 1800, il y a eu l'émergence de la vidéo qui est quand même une trace. Mais avant, tout était perdu. En fait, la plus vieille trace de la langue des signes, c'est en 1920. Là, il y a eu l'exploration des vidéos, donc ça s'est vraiment répandu à partir de là. Et là, les personnes sourdes ont pu s'exprimer, donc c'est très récent, le fait que les vidéos puissent être diffusées. C'est vrai que maintenant chacun a son téléphone et c'est accessible. On peut avoir différentes formes d'art, des contes, de la poésie, de différents spectacles. Après, moi je suis pas spécialement artiste, hein, mais j'ai déjà vu des artistes sourds et oui, c'est de plus en plus répandu.
D'accord. On a des traces sous forme d'images plus anciennes dans les manuscrits du Moyen-Âge. J'ai vu votre conférence, vous parliez de l'exemple du verbe aimer. Et donc, là aussi, c'est presque comme un fossile, en quelque sorte, de ce qui a pu être à l'époque. On peut avoir de l'iconographie médiévale, c'est ça?
Oui, justement, par rapport au signe aimé dont vous parlez, c'est vrai que les signes au monastique, on voit le verbe aimer comme ça, avec la main qui porte quelque chose. Donc, c'est adapté à ce qui se passait à l'époque. Un autre exemple de signe, le signe fou. En fait, il peut être signé comme ça aussi, fou. En fait, fou, c'est vraiment utilisé pour parler les sourds. Dans leur dessin, on voyait que les fous avaient ce signe-là parce que il y avait une image de quelqu'un avec des cheveux en l'air, mais c'était lié à leur culture monastique, et donc ça s'est repris dans leur signe et puis dans la langue des signes pour tout le monde.
D'accord, merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à dans le public, et dans le public des entendants comme dans le public des sourds, bien sûr, par rapport à ce qu'a dit monsieur Quentin là, au sujet des traces? Vous voulez un micro peut-être? Comment?
Oui.
Mmh. C'est une question intéressante. Ah, donc, langue des signes et la labialisation ne sont pas ensemble. Mais c'est vrai qu'il y a eu quand même une influence de l'éducation oraliste, l'interdiction de la langue des signes. Du coup, on a assimilé ça. Mais c'est vrai que quand on voit des anciens traces de langue des signes, ils n'utilisaient pas du tout la labialisation. C'était vraiment que les mains et les expressions du visage. Mais là, ça a été l'influence de l'éducation oraliste qui a fait qu'on rajoute cette labialisation.
Monsieur, oui, devant, et ensuite il y a des mains, il y a pas mal de mains. On va balayer comme ça. Donc déjà, monsieur.
Vous avez donné un exemple d'un geste, d'un acte, on mime un acte pour désigner, alors je pense que là je voudrais une clarification, pour désigner la personne qui fait cet acte, mais est-ce qu'on se sert du même geste pour désigner l'acte lui-même ? C'est-à-dire que dans une langue comme le français, par exemple, parler. Mmh.
Alors, c'est vrai que ce qui est le plus utilisé, le plus évident... Alors, je vais peut-être passer par un exemple. Donc là, le véhicule qui défile, qui roule, en fait, on le voit de l'extérieur. Après, quand on est à l'intérieur, on va plutôt faire comme ça. On a les mains sur le guidon. Puis là, il y a l'avion qui arrive. Et puis à l'intérieur, le pilote. Et puis là, l'autre pilote qui se regarde. Et puis en fait, on fait les deux personnages, en fait. Donc il y a plein de situations où on va jouer les deux rôles, et puis à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Est-ce que c'est plus clair ?
Il y a une mise en scène littérale tout le temps, quoi. Il y a un côté vraiment mise en scène. Ensuite,
oui,
il y
avait... Oui, c'est vraiment typique.
Alors,
de
monsieur
la
là-bas,
de...
Kabar,
vraiment,
oui.
C'est ça. C'est vraiment sans on ne peut pas. Oui, il y en a, effectivement. Il y a des expressions françaises qui ne sont pas traduites en langue des signes et vice-versa, parce que ça dépend de la culture. Il y a quelque chose qui ne peut pas forcément passer partout. Je ne sais pas, par exemple, cette façon-là. Comment on pourrait traduire cette mimique ? Ou, par exemple, un...
J'aime pas.
Oui, 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 ou ça fait juste, oui. Voilà, après, c'est peut-être l'inverse, ou ça dépend du contexte. Par exemple, un signe, ce signe-là, qui est un vieux signe, en fait, c'est un sourd qui est fan des entendants et qui va faire tout pour être comme un entendant. Mais c'est un signe, et vous voyez, il y a toute une phrase pour le dire. Et puis le mot noétomalalien.
Oui.
Voilà.
Noétomalalien, tout le monde a du mal.
C'est ça. C'est un mot. En fait, c'est un auteur sourd.
50 fois pour être sûr.
Gaïa. Qui a créé ce mot en français parce qu'il y avait besoin de désigner le fait de s'exprimer en langue des signes avec les mains. Nous, on fait juste comme ça, mais c'est vrai que en français, on va dire je parle en langue des signes, alors qu'en langue des signes, y a juste un signe, comme ça. Voilà. Et donc, il a proposé un nouveau verbe pour désigner je parle en langue des signes, c'est néo-domalalier.
Voilà, c'est.
Voilà, donc en fait, peut-être que chaque langue influence l'autre pour la création du vocabulaire.
D'accord. Pour revenir, bon, le néo-domalalien, j'ai cherché, donc c'est un écrivain sourd, Henri Gaillard, qui a. Fabriquer ce mot à partir de noeto, être compris, hein, en grec, noetos, et alali, c'est le privatif, le a privatif de lalos, la parole. Donc on communique, on est compris, quoique étant sans parole. Hein, c'est l'étymologie, c'est bien.
Tout à fait.
Peut-être encore quelques questions, et après on va passer peut-être à un domaine plus science-fictif. Alors il y avait des gens avant monsieur, là il y en a énormément. Donc, alors, allez-y, puis après peut-être là-bas.
Non, 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 non.
Ça, je peux répondre,
non.
Si vous voulez,
non,
répondre.
Il n'y a pas une. Super, bon, d'accord. Alors, il y a une langue des signes par pays. Chaque pays, disons, a sa langue des signes. C'est vrai qu'il y a en plus des langues régionales avec des signes typiques pour chaque région. Par exemple, à Paris, on va signer comme ça « piscine ». Et à Marseille, « piscine », comme ça. Voilà, il y a une différence régionale. Il y a des différences dans tout le monde entier. Après, un sourd français qui va rencontrer un sourd japonais va arriver à discuter avec lui plus aisément qu'un entendant français avec un japonais. Il y a plus de synchronisation rapide entre deux sourds. Oui, ça c'est...
D'accord. Alors, allez-y.
Alors, du coup, juste l'interprète doit se retourner et du coup... langue des signes, donc la SF, c'est en 3D, mais c'est pas plutôt en 4 dimensions parce qu'il y a aussi la dimension temporelle avec le passé, le futur qui est compris. C'est vrai que 3D, c'est le fait d'être dans l'espace, et après, effectivement, il y a la dimension temporelle. Alors, par exemple, donc c'est dans un endroit, il y a des immeubles. Et puis, on voit qu'il s'écroule, les maisons se reconstruisent, et puis il y a un avion qui fait exploser. On voit, en fait, l'évolution au fil du temps. Là, la durée est comprise. On voit l'influence du temps sur l'architecture, par exemple, les immeubles qui se construisent, qui se déconstruisent. Oui, effectivement, c'est une quatrième dimension.
Est-ce qu'il y a une autre question qui serait adressée à... Ah, pardon, oui. Oui, monsieur, oui, monsieur. Allez-y, allez-y.
Alors, la langue des signes peut être utilisée pour le concret et l'abstrait. Hein. Il n'y a pas de différence. Par exemple, on va montrer les ordinateurs qui sont connectés ensemble via un réseau. En fait, on va montrer l'aspect concret d'Internet. Et donc, le rendre visible, en fait, la notion abstraite, on va la rendre visible. Et donc, je ne sais pas, par exemple, un mot en français, on va avoir feuille d'arbre ou feuille de papier blanche, on a un mot. Mais là, quand vous entendez juste feuille, vous ne savez pas lequel ça désigne. Une feuille. Est-ce que c'est une feuille d'arbre, une feuille de papier? En fait, ce n'est pas visible tout de suite. Alors que langue des signes, on va avoir l'information plus rapidement. C'est la différence.
Et de toute manière, on en parlait à l'instant.
Oui, on disait que les sourds savent aussi lire. Donc des termes comme Internet, ils peuvent aussi le lire. Ce qui est super intéressant, ce qui est super impressionnant, parce que du coup, ils sont complètement bilingues. Et ce qui est... pas forcément donné à tout le monde.
Voilà. Alors, je vais donner une des personnes, peut-être vous, monsieur, tiens, voilà. Oui.
Alors, je voulais savoir, effectivement, il y a différentes langues dans le monde. Est-ce qu'il y a la même grammaire néanmoins? Alors, cette question est vraiment un piège. Alors, est-ce que la grammaire est la même? Non, je dirais, je ne crois pas. Alors, la grammaire de généraliste, de base, oui. Après, il y a forcément des détails propres à chaque pays. Par exemple, en France, il y a une grammaire propre. Après, aux États-Unis, par exemple, ils sont plus proches des langues orales. Leur grammaire est plus proche de la langue orale par rapport à leur histoire. En fait... pour l'histoire, en fait, c'est quelqu'un qui a été aux États-Unis et qui a amené les signes méthodiques créés par l'abbé de l'épée aux États-Unis, en fait, pour l'évolution de leur langue des signes. Donc, c'est leur base de grammaire. Et alors qu'ici, en France, on n'a pas la même base. Parce que, en fait, historiquement, il y a eu cet apport des signes méthodiques. Voilà, c'est un peu complexe.
Bon, l'heure tourne, je vais prendre une dernière question et on va essayer de passer à la partie suivante. Alors, est-ce qu'il y a une question encore qui pourrait être posée? J'ai vu que des mains se levaient tout à l'heure, mais vous êtes beaucoup et je suis peu. Là-bas, attendez. Tout à fait au fond, monsieur, oui, je ne vous voyais pas parce que vous êtes dans l'ombre.
C'est vrai que il y a différents métiers. On peut utiliser l'iconicité, par exemple le métier de menuisier. On va voir la scie, le bois qui défile, les outils qui creusent, les outils qui poussent. Voilà, on va voir l'objet, son mouvement pour pouvoir l'appeler. Après, pour les outils d'un chirurgien, on va également avoir la forme de l'objet, la façon dont on sert. En fait, chaque métier a ses propres objets qui vont être repris en iconicité. Après, le problème, c'est qu'en français, on va avoir beaucoup de signes, et puis il faudrait qu'il y ait les mêmes listes en langue des signes, et c'est pas forcément toujours le cas.
Hirondelle, non ?
Oui.
Oui, mais avec le contexte, je pense.
Oui, mais alors, la langue des signes. Oui, effectivement, en fonction du contexte, oui.
Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a du jargon et du contexte partout. Alors, dans la vie, je suis informaticien, on ne l'a pas dit, qui est un métier horrible parce que... Non, mais c'est bien de ne pas le dire. Qui est un métier horrible parce qu'on a un jargon abominable et extrêmement précis. Dans un vieux temps, j'ai travaillé dans les télécommunications. Alors, l'informatique dans les télécoms, il n'y a pas pire pour parler jargonneux. On s'en sort, enfin, et j'imagine, alors je réponds à la place de monsieur, mais j'imagine que c'est pareil, les sourds qui travaillent dans un métier très particulier ou dans un domaine très particulier vont développer un jargon propre à ce qu'ils font, qui ne sera pas forcément intelligible par les autres sourds. Mais ça, on va dire, c'est une caractéristique humaine.
Oui,
un peu
générale. Bien sûr. Mmh. Bah oui, voilà, c'est humain.
D'accord, merci bien. Je voulais passer à la partie suivante, c'est-à-dire, à ce qui était un peu dans le thème de la table ronde aujourd'hui, les langues construites, c'est-à-dire les auteurs de science-fiction, ou pas d'ailleurs, hein, d'autres, pourquoi construit-on une langue ? Alors, il est clair maintenant à mes yeux, ça l'était pas avant, il est clair à mes yeux que le noéto-malalien est une langue donc, qui vient, que ce sont les gens, comme n'importe quel langage, qui l'ont élaboré pour leurs besoins propres. Mais il y a eu l'abbé de l'épée, les moines d'abord, l'abbé de l'épée ensuite, qui sont intervenus. Peut-être la langue des signes s'est enrichie de ça. Il y a peut-être des parties de langue construite qui ont été attrapées.
Oui, bien sûr.
Voilà. Et c'est un peu. En fait, c'est un peu le problème aussi. Enfin, c'est une question qui est dans les langues que nous pratiquons. Hein, regardez en France, il y a eu l'ordonnance de Villers-Cotterêts, hein, sous François Ier. Hein, on parle français dans les documents, puis une telle façon de parler le français. Il y a eu la même chose. On est quand même un pays, nous, qui avons une académie qui nous dit ce qui est bien et pas bien, l'académie française, hein. Donc, on est une langue naturelle. Enfin, le français est une langue naturelle. Mais il y a de la construction. Il y a des retouches qui sont apportées. OK. Après, à côté de ça, il y a des langues complètement construites, hein, qui ont été complètement construites. Alors, j'évacue rapidement. Il y a des langues farfelues. Il y a des gens qui, à un moment, plutôt dans les années 50, avec la vogue des soucoupes volantes, qui ont inventé des langues pour communiquer avec d'éventuels extraterrestres. Là, je parle pas des maths. Hein. On dit toujours pour communiquer avec des aliens. Les maths, ça sera extrêmement pratique parce que c'est un langage. Et encore, c'est discutable peut-être. Je suis pas matheux.
Essayez d'aller lire un manuscrit de Newton, les Principia Mathematica dans le texte. Vous comprendrez rien du tout, même si vous êtes ingénieur et très fort en maths. Hein.
Ah oui, parce que Charles, en fait, la façon de codifier les choses sera pas la même.
Rien à voir.
D'accord. Donc même les maths, ça serait pas du tout évident. Donc là, il y a des gens. Moi, j'avais noté un truc qui s'appelle l'AUI. Hein, alors c'est une langue intuitive pour communiquer avec des extraterrestres dont on ne connaît rien. Alors le côté intuitif, quand même, me paraît un petit peu étrange. Un autre monsieur a inventé une langue que Hans Freudenthal, une langue qui s'appelle le Linkos, lingua cosmica, la langue cosmique. Alors lui, ses phonèmes, hein, ses sons, ce sont des signaux radio de longueur et de longueur d'onde différentes. Mais lui il transmet un manuel avec des maths, des exemples de comportement humain, notre notion du temps, etc. Mais ce sont des choses, pour l'instant, qui me semblent relativement fantaisistes. À côté de ça, dans les langues construites, il y a des langues construites pour raisons politiques. Parce que, par exemple, regardez le nombre de termes anglo-américains qu'on utilise. C'est clairement parce qu'il y a une influence culturelle de ce pays. Hein. J'invente l'eau chaude en disant ça. Mais de créer l'espéranto, au départ, hein, vers la fin du 19e, l'idée, c'était justement une langue qui naisse de rien et qui ne profite pas à un groupe politique. Ah.
Alors, j'ai étudié un peu l'espéranto il y a quelques années, c'est une langue magnifique. Ceci étant, c'est une langue magnifique et mais qui n'est pas du tout universelle. C'est beaucoup plus facile d'apprendre l'espéranto quand vous parlez français, anglais, allemand, que si vous parlez swahili, zoulou et chinois. C'est vraiment une langue indo-européenne, hein. Faut pas se planter. Hein, c'est même quasiment une langue romane. Il y a des emprunts à l'allemand et l'anglais, mais enfin, c'est, hein, ça reste une langue, on va dire, de ici.
D'accord, oui, c'est un peu européocentriste, quoi. Hein, d'accord. Bon, après, en cherchant un petit peu là pour préparer, j'ai vu qu'il y avait d'autres langues, par exemple la Lingua System Frater, qui est apparemment un espéranto asiatique, mais qui, pareil, donc n'est pas vraiment universel, puisque rien que dans sa définition, c'est un espéranto asiatique. Il y a eu cette tentative aussi, que je connais pas bien, mais le Tokipona, où c'est une langue minimaliste, je sais pas si vous avez entendu parler, qui n'a que, je crois, 118 ou 120 mots. Donc je pense pas qu'on puisse traduire Proust en Tokipona, par exemple, hein, ça posera problème. Ou alors, ça demande vraiment des phrases interminables pour nuancer. Voilà. Alors, après les langues purement fictives, après je vais donner un peu la parole aux intervenants, là. Des auteurs, dans leurs œuvres, soit font apparaître le texte dans ces langues, soit les évoquent. Hein, il y a le cas assez fréquent en science-fiction, on n'aura peut-être pas le temps d'en parler. Mais, j'ai vu, en regardant les langues fictives, j'ai vu qu'elles servent à plusieurs choses. D'abord, elles servent à dénoncer le côté totalitaire du langage. Hein, Barthes, le philosophe Barthes et linguiste Barthes dénoncent ce côté totalitaire. Dès qu'elle est proférée, la langue entre au service d'un pouvoir. L'exemple canonique, c'est le novlangue, hein, le newspeak d'Orwell dans 1984, qui est une langue qui est faite pour que les gens cessent de penser, en tout cas de penser de façon rationnelle, hein, puisqu'il y a même des choses qui sont allogiques. Hein, c'est-à-dire le contraire, c'est pas le contraire logique, qui sont volontairement faites pour casser la logique. Bon, premier cas d'une langue fictive pour dénoncer ça, hein, le côté totalitaire d'une langue. L'autre cas, c'est le créer un effet d'étrangeté. Je sais pas si certains d'entre vous ont entendu parler du groupe Magma, c'était un groupe de jazz rock des années 70, voilà. Et le gars chante, Christophe Vander chante en cobayen, qui est une langue qu'il a inventée.
Aux extraterrestres aussi également. Ce sont les cobayens qui parlent le cobaya, quelque chose comme ça.
Oui, il y a un truc comme ça.
Puis on lui reproche parfois de manquer un petit peu de lexique là, par rapport à ce que ces extraterrestres expriment, mais il a développé dans tous les albums cette espèce d'échange avec les extraterrestres, avec justement les
D'accord.
Toujours très très proche de l'ASF, quel que soit le domaine culturel, hein, pour ces idées-là. Enfin, de l'ASF ou de la fantasy, puisque après tout, le premier, c'est Tolkien.
Oui, alors voilà, le premier c'est Tolkien. Donc Tolkien qui lui invente un nombre impressionnant de langues, je crois qu'il y en a 4 ou 5 qui sont avec leur grammaire, leur syntaxe, le vocabulaire bien sûr, à la langue des elfes, des orques, des nains, etc. Et Tolkien qui disait, j'ai créé en fait la terre du milieu, l'univers, pour mettre en scène ces langues. Alors c'est peut-être un peu provocateur, puis ça va au-delà de ça, bien sûr, le Seigneur des Anneaux. Mais c'est tout de même ce qu'il disait. Là je m'adresse à ceux d'entre vous qui sont auteurs ou pas, est-ce que dans vos œuvres, par exemple, vous faites appel, vous, à des langues fictives? Et si c'est le cas, comment vous vous y prenez? Je ne sais pas. Ou si vous aviez à le faire, quelle serait votre position? La question...
Alors, bon, dans mon cas, puis vous, on devine que je viens du Québec assez rapidement lorsque je prends la parole, et ça nous met dans une position avec le langage qui est assez particulière comme écrivain, puisque nos écrits vont être à la fois matinés de Québécois, forcément, qui a évolué d'une façon sur certaines expressions assez distinctes du français, même si, bien entendu, en ce moment, je vous parle pas en Québécois pur, mais si vous écoutiez une discussion de Ariane discute avec sa mère un dimanche matin, je pense que vous comprendriez 20% de notre conversation, surtout émanant de ma mère.
Tu peux faire la même chose en normand, hein, c'est pareil.
Oui, oui. Cela dit, même si dans mes romans, c'est pas une sorte de reproduction de discussion avec maman, eh bien, il y a quand même dans les dialogues aussi ce Québécois-là qui va être introduit et mélangé également avec de l'anglais à cause de notre position géographique au Québec. Ça dépend des auteurs, mais étant un carrefour langagier assez multiple, on va dire, avec tout plein de diversité.
Je me rappelle. C'est vrai que Il y a aussi différents niveaux de langue des signes, pareil en ce qu'on va dire en public, ce qu'on va dire en famille. Oui, il y a la même chose en langue des signes.
Oh, génial.
Il y a des niveaux de langue, familier, courant, soutenu. C'est-à-dire. Selon la personne à qui on s'adresse. Et donc,
oui, il y a différents niveaux, oui, il y en a différents, oui.
D'accord, merci.
Oui, puis je terminerai rapidement en disant que, écrivant pas des séries personnellement, j'ai peut-être un petit peu moins développé jusqu'à maintenant cet aspect, disons, de vouloir créer des langues dans la durée, mais je comprends tout à fait l'intérêt pour la densité, la création. Ça ajoute un autre niveau de création dans la création d'un monde. Alors, c'est extrêmement attrayant pour nous auteurs.
D'accord, c'est rien. Et quant à vous, est-ce que c'est... En fait, j'ai pas lu votre livre et... Oui, j'en suis navré, ben, je peux pas tout lire. C'est super vexant d'entendre... Mais tout à l'heure, c'est votre fête. Hein. Non, mais est-ce que... Attends, je vais prendre... Vous avez un micro ? Attends. Est-ce que... Bon.
J'étais pas prévu, en fait, c'est ça. C'est le traquenard, non ?
J'ai un peu de mal à faire le plan.
D'accord. Alors moi, il y a bien une langue particulière dans mon livre, donc il n'a pas lu, comme vous l'avez entendu.
J'en suis navré et je vais remédier à ça.
Voilà. Donc la langue qui est utilisée dans mon roman, qui s'appelle « Les mystères de l'Arispem », c'est le louchébem. Le louchébem, c'est en fait un argot, et un argot de profession, puisque c'est l'argot des bouchers, qui existe, pour de vrai. Voilà. Et donc c'est un argot à clé, un peu comme le verlan, qui se base sur un système de transposition de lettres. Donc, j'ai pas de tableau et c'est bien dommage parce que c'est plus facile à expliquer avec un tableau. Mais on va le faire quand même comme ça. Donc, non, mais c'est bon. Par exemple, si on prend l'arispem, donc dans mon titre, L-A-R-I-S-P-E-M, c'est en fait Paris, la ville de Paris. Et pour obtenir ce résultat, on prend la première lettre, donc qui est un P, on la met à la fin du mot. On la remplace par un L, toujours un L, en louchébem. Et à la fin, on va mettre un suffixe qui est un peu selon l'humeur de celui qui parle. Ça peut être M, ça peut être J, ça peut être OC, etc. Donc par exemple, en français, en vrai français, le mot loufoque vient du louchébem, puisque c'est fou. On met le F à la fin, on le remplace par un L, louf, et on rajoute le suffixe OC. Et voilà comment on fait du louchébem. Ceux qui n'ont pas compris, lèvent la main.
Moi, j'ai des questions là-dessus. Donc, ça donne ça.
Ouais, avec un M à la fin.
Un M.
Ouais.
OK. Donc, j'ai...
Voilà. Donc, au début, on a Paris. Le P, la première lettre du mot, est rejetée à la fin, toujours à la fin. On remplace par un L, la rispe, et on ajoute un suffixe, peu selon l'humeur, quoi.
Alors, l'opération mentale me semble compliquée. Est-ce que les gens le font? Les bouchers le faisaient en temps réel, ça ?
Oui, mais alors, comme n'importe quelle langue, en fait, pour faire du louchébem, quand on est boucher, on ne réfléchit pas, en fait, parce qu'on l'apprend comme si on apprenait finalement une autre langue. Les mots sont déjà tout construits. Donc, il n'y a que, par exemple, moi, quand j'ai écrit le bouquin, je ne suis pas du tout bouchère. Donc, il a fallu, effectivement, que je réfléchisse. Mais au bout d'un moment, on a les mots en tête. Par exemple, si je dis « longeur bem », c'est bonjour, bonjour, mais j'ai pas besoin d'y réfléchir puisque je le sais.
D'accord. Non, c'est assez facile. Et donc c'est intégré, c'est la première fois que j'entends ça, un langage de corporation en fait, qui sera intégré comme langue dans un monde imaginaire.
C'est ça. Donc en fait, tout. Oui, tout.
Et pourquoi ? Ma question c'était. Pourquoi ? Il y a des bouchers dans ce roman ? Il y a un rapport à cela ou pas ?
Complètement. Tu parlais tout à l'heure de Tolkien qui voulait un monde pour mettre en scène sa langue. Là, c'est un peu pareil, puisque tout part du louchébem. En fait, mon mari est boucher, évidemment. Tout s'explique. Et un soir, il est rentré du travail en m'expliquant que cet argot existait. Et j'ai trouvé ça absolument merveilleux, parce que je me disais une profession... courante, banale, pas hyper considérée comme la boucherie. Se dire qu'ils avaient un argot, tout de suite, ça leur donnait une aura romanesque absolument formidable. Et je me suis dit, oh là là, je voudrais bien faire un monde dans lequel les bouchers parlent le louchébem, c'est les crâneurs, ils se promènent avec leur couteau au côté, et c'est ceux qu'on envie, c'est ceux que... Voilà. Donc, du coup, tout est parti de là. Et après, ben, l'univers en a découlé, puisque comme c'est un argot réel qui était parlé à Paris au XIXe siècle, surtout dans les abattoirs de la Villette et de Vaugirard, ben, il fallait forcément que le roman se passe à Paris au XIXe siècle, quelque part par là.
En intervenant, le processus mental me semble fascinant. C'est-à-dire que là, c'est le langage, un langage dont découle un monde. Et c'est un peu le rêve de Mallarmé, ça. Et c'est le rêve de Raymond Roussel aussi. Voilà. Non mais sérieux, c'est Raymond Roussel, c'est un écrivain français un peu étrange, je ne sais pas si vous avez entendu parler,
voilà, qui invente, bon là je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui écrit ses romans en se basant sur des jeux sur les mots. Et c'est, on parle de méthode roussélienne et c'est totalement fascinant à voir en œuvre. Il a même écrit un ouvrage qui s'appelle « Comment j'ai écrit certains de mes livres ». Et, mais parce que c'est de son vivant, c'est un gars qui était riche et qui a claqué toute sa fortune à imprimer ses livres dont personne ne voulait et à faire mettre en scène sous forme de pièces de théâtre ses textes. Et c'était des bon après les surréalistes et tout ça l'ont remis à l'honneur parce que c'était une démarche foncièrement sur le langage fascinante. Et donc ça me fait penser un peu à ça, à ce que faisait Raymond Roussel ou ce dont rêvait Mallarmé dans le livre avec un grand L, c'est-à-dire que c'est Tu as créé un monde, en fait, à partir d'un langage. Ce que disait Fair Tolkien, mais là, je trouve ça frappant, parce que là, vraiment, on voit ton processus mental, comment tu as construit.
Juste une remarque, oui. Je trouve ça assez amusant, parce que, pour la peine, c'est un langage, un argot qui a été créé pour séparer. En général, le langage sert à communiquer. Là, en l'occurrence, on crée un argot spécialement pour séparer la corporation des bouchers des autres.
Oui, c'est, le principe, c'est de cacher aussi. Parce que quand on parle entre bouchers, forcément, le monsieur à qui on va refiler un mauvais morceau, bah, il ne comprend pas. Voilà. Et c'est drôle en plus. Donc, voilà.
Il y a des exemples contemporains un peu plus tristes, un peu moins drôles. Alors, je ne sais pas du tout si c'est vrai, parce que je ne suis pas linguiste. Je me tourne vers les gens qui le sont plus que moi. Ce que j'ai entendu dire, c'est que le serbo-croate était globalement une langue à peu près unifiée. C'est la même, c'est ça, on est bien d'accord. Mais que depuis les événements des années 90, globalement, il y a un effort plus ou moins conscient, enfin, si conscient, guidé par les équivalents locaux de l'Académie française pour séparer les langues. Donc déjà, le serbe va s'écrire en alphabet cyrillique, le croate va s'écrire en alphabet latin. Ça, c'est plus toujours, ouais. Et qu'ils vont sélectionner du vocabulaire, ils vont préférer un vocabulaire, on va dire, plus croate quand on est croate et plus serbe quand on est serbe. J'avais lu ça, je sais plus où, c'est encore une façon de créer ou faire évoluer dans le langage d'une certaine façon pour séparer plus que pour communiquer et unifier.
Oui, enfin, pour le cas du serbo-croate, c'est juste que les serbes sont orthodoxes et écrivent en cyrillique, et les croates sont catholiques et écrivent en alphabet latin. Sinon, ils parlent à peu près exactement la même langue avec des différences dialectales comme il en existe dans toutes les langues, c'est tout. Ah si, maintenant ça commence, il y a des nationalismes qui exacerbent certaines choses, mais ça reste très limité, les dictionnaires sont toujours des dictionnaires de serbo-croate, c'est pas... Mais je voudrais revenir sur la question des langages imaginaires dans la SF et la fantasy. Cette fois-ci, en tant que lecteur et éditeur. Ça, c'est quelque chose qui souvent m'agace chez les auteurs. Les néologismes mal à propos. Je vais m'expliquer. Vous êtes sur la planète Strombule. Il y a des habitants et on nous dit que les habitants ont 4 plics. Puis quand on lit le texte, on comprend que c'est des tentacules. Imaginez qu'on traduise un auteur américain et qu'on laisse des mots anglais. Ou un auteur latin de l'Antiquité, on laisse des mots latins. Je me dis toujours qu'on ne doit employer des mots exotiques que quand ils recouvrent un concept qu'on ne peut pas exprimer dans notre langue. Sinon, ça ne sert à rien. C'est de l'exotisme de pacotille. Et ça, c'est quelque chose qui m'énerve régulièrement dans les œuvres de fantasy et de science-fiction. De l'exotisme de pacotille. Ça existe aussi avec les romans historiques ou de fantasy historique qui se passent au Moyen-Âge où on fait parler les gens avec une espèce de sabir pseudo-médiéval.
Des visiteurs.
Oui, par exemple, mais qui n'a strictement aucun intérêt parce qu'entre eux, ils se comprennent. Mais nous, du coup, on a le risque de ne plus les comprendre. Les seuls cas où, à mes yeux, hein, où ça se justifie, c'est que quand on a donc des concepts qu'on ne peut pas comprendre, ou alors quand on a des personnes de deux cultures différentes qui s'expriment. C'est ce que faisait justement Tolkien. Ou avec l'elfique et les langues elfiques et les langages humains, on a deux populations différentes qui doivent communiquer, et parfois bon, bah, on a des expressions qui se font dans telle ou telle langue. Mais quand on a des populations uniformes d'un même peuple, bah, oui, ça tient de l'habillage et c'est gratuit.
Alors, Yann ?
Oui, justement, ça, c'est intéressant. Pour information, je voudrais rajouter, par rapport à la langue des signes, le français, j'ai dit qu'il y avait besoin de création lexicale pour poursuivre ben, le français. Effectivement, ça peut donner des choses qui sont inadaptées. En fait, vouloir couler un mot à un signe, c'est le forcer, ça donne... c'est dommage, en fait. Il faut que ce soit les personnes qui utilisent la langue, qui s'expriment et qui inventent le mot, le signe, pas qu'ils soient influencés par une autre langue. Donc, on a beaucoup de créations forcées et qui, finalement, tombent dans l'oubli parce que ça n'a pas été des créations naturelles.
Donc, en fait, il y a des gallicismes en langue des signes, comme on peut avoir des anglicismes en français.
Ouais, voilà.
Juste, je voulais rebondir sur ce que disait Patrice. Moi, j'aime beaucoup jouer sur les jargons, justement parce que c'est des sous-langages spécifiques à un groupe de personnes. Ça peut être une corporation, ça peut être juste des gens qui aiment bien discuter entre eux et qui vont s'inventer leur langue. Et du coup... Il y a ce côté exclusif que je trouve absolument fascinant de façon générale.
Non, voilà, parce qu'il y a, bon, en science-fiction, il y a ce qu'on appelle le techno-blabla. C'est-à-dire, voilà, tout ce vocabulaire qui fait futuriste. Et ben, je proposerais, ben, pour décrire ce que tu dénonces, l'exo-blabla. Oui. De mettre des termes qui font exotique et qui, en réalité, recouvrent des concepts parfaitement banals, quoi. Il y a Gérard Klein dans la préface, je sais pas quel bouquin, ça m'échappe, qui parle de ça. Bon, Gérard Klein, c'est un directeur de collection et anthologiste, bon, et penseur entre guillemets de la SF, qui fait beaucoup de préfaces intéressantes, et il compare cela au plaisir régressif qu'on a quand on est gamin et qu'on acquiert le langage et qu'on imite le langage adulte. Et là, il y a beaucoup de ce genre de blabla. Et alors, je pense un peu méchamment, il compare certains auteurs à ça. Il y a une auteure qui s'appelle Caroline Cherry, vous lisez une page de Caroline Cherry, c'est il y a 40 mots incompréhensibles. Hein,
c'est pas si vrai que ça.
Oh, ça dépend des textes. Je trouverai des exemples. Il y a des textes. Voilà. Il y a des textes. Non, mais après, c'est un auteur tout à fait respectable et qui fait des choses intéressantes. Mais elle a un peu ce défaut de, c'est le mien. Enfin, moi, comme auteur, j'ai cette faiblesse. J'adore jouer sur le langage. Et, je tords énormément de mots. Et, ma némésis, c'est de faire, voilà, là, en pense, sur un roman, mon éditeur m'a dit, ça va pas du tout. Ton calendrier est incompréhensible, les noms de tes personnages, il y a des choses qui vont pas du tout dans tout ce qui est onomastique, toponymie, etc. Et donc, ben, faut qu'on revoie parce qu'il y a des choses que je vais défendre âprement et d'autres où je vais avoir une oreille un peu raisonnable. Mais c'est vrai qu'il y a ce plaisir, il y a un plaisir aussi à, et alors ça touche, attention, je me compare pas du tout à la personne dont je vais parler, hein. Mais ce que faisait Joyce, dans Ulysse, il fait du flux de conscience en monologue, et il pousse ça dans un cas extrême avec un roman, je sais pas si vous connaissez, Finnegan's Wake.
Finnegan's Wake.
Ouais, Finnegan's Wake. C'est totalement illisible. C'est fascinant, mais illisible. C'est-à-dire que là, le flux de conscience, c'est même plus des mots, c'est des associations d'idées. Il mélange des mots d'une dizaine de langues, je pense, hein. Et vous lisez une page de Finnegan's Wake, c'est, vous sortez à moitié sonné, quoi.
Il y a un gag très célèbre, je ne sais pas si vous connaissez Jasper Ford, qui est un auteur qui écrit à propos de la création des livres, peu importe, et il explique qu'il y a eu un tremblement de terre, quelque chose comme ça, qui a fait que tous les points, toute la ponctuation de Finnegan's Wake a disparu, mais heureusement, personne s'en est rendu compte.
Donc voilà, ça c'est des expériences de langage extrême, il y a des poètes. J'avais pour préparer un poète que je connaissais pas du tout. Comment s'appelle-t-il ce monsieur? Qui s'appelle André Martel, qui a inventé une langue, le paraloïdre, et il écrit ses poèmes en paraloïdre. Alors, ça ressemble au français, mais sans en être. Ça me fait penser à... c'est quelqu'un qui a une émission YouTube qui s'appelle Science Étonnante. Je sais pas, vous connaissez peut-être. Et il a montré qu'il est informaticien, le gars. Il a écrit un petit programme.
Quelle horreur.
Il a écrit un petit programme pour générer justement des mots pour les auteurs de science-fiction qui ressemblent à du français sans être du français. Et donc en utilisant les lettres les plus fréquentes et tout ça. Donc oui, il y a plein de jeux qui peuvent être sur sur cet exo blabla, qui peut être d'ailleurs, alors là c'est un peu vicelard, parce que là c'est l'exo blabla qui ressemble au français. Donc une espèce de français uchronique. Il y a des gens qui se sont amusés à faire des langues uchroniques. Alors pour traduire uchronie, l'uchronie c'est une histoire qui n'a pas eu lieu. Hein, par exemple, c'est si Hitler avait gagné la guerre, qu'est-ce qui se passerait ? Hein, bon, voilà, et tout ce qui se passe derrière. Et il y a des gens qui se sont amusés à essayer de construire des langages uchroniques. Alors, je sais qu'il y a une expérience qui se fait sur le net, c'est tout un groupe qui s'appelle Il Bétissad. Et eux, ils essayent de voir, donc ils créent un univers de fantasy, qu'est-ce qu'aurait pu donner l'anglais s'il avait évolué à partir du latin. Ou il y a la même chose aussi, qu'est-ce qu'aurait pu donner les langues slaves s'ils avaient été romanisés, les slaves. Et on essaye de faire en fait ce qui s'appelle de la grammaire historique, hein, c'est-à-dire de voir comment une forme change avec les millénaires et arrive à quelque chose de moderne, sauf que c'est moderne dans un univers qui n'est pas le nôtre, hein, dans un univers parallèle où l'histoire aurait été différente. Donc ça va, voilà, il y a des langues uchroniques.
Les linguistes eux-mêmes ont déjà du mal à saisir des modèles d'évolution des langues existantes.
Je pense qu'il y a une grande part d'impro là, oui.
C'est toute une bataille autour des langues indo-européennes, par exemple, pour savoir leur chronologie, leur rythme évolutif, à partir de quand on peut dire qu'un dialecte devient une langue. Enfin, alors imaginez ce travail-là.
Oui, qui est fait sans doute par des gens qui ne sont pas spécialistes. J'en ai entendu parler, je n'ai pas vu le résultat. Quoi.
Mais ça doit être fascinant.
Voilà, là, ça doit être assez fascinant. Après, il faut voir effectivement quel crédit on peut apporter à cela. Maintenant, bon, je ne sais pas s'il nous reste tellement de temps. Ah, est-ce qu'il y a encore des questions ? Moi, j'avais encore des trucs, par exemple. Il y a. Non, mais j'aimerais faire des expériences extrêmes, c'est-à-dire, par exemple, inventer. Dans une nouvelle récente, j'ai utilisé le terme autre temps pour dire il n'est pas ailleurs, il est autre temps, c'est-à-dire dans un temps qui est différent d'une autre, dans une parce que la durée s'écoule pas de la même façon pour mon personnage. Mais des inventions de mots qui seraient liés, parce que c'est temps et langage, inventer de nouvelles désinences verbales, de nouveaux temps verbaux. Par exemple, ce qui aurait pu être dans une uchronie. Donc, un temps ou un mode du verbe. Mais ça, aucun éditeur n'est prêt à ça. Parce qu'ils vont me dire, c'est hyper casse-gueule, ça se vendra jamais, et donc, niet. Question.
Non, juste une remarque. Oui. Benny Van fait un peu une chose comme ça dans une de ses nouvelles de votre taverne.
Waouh.
Le tenancier de la taverne en question va passer toute sorte d'extraterrestre et s'adresse à eux s'il le veut dans leur langue. Et il fait un truc très amusant dans une de ses nouvelles. Il utilise un possessif. Votre chaise a coincé ma jambe de pantalon. Et l'extraterrestre a l'équivalent d'un rire. Parce que ce qu'il a dit, il a utilisé un possessif organique pour sa jambe de pantalon et la chaise, au lieu d'un possessif simplement de lien.
Ah, il se trompe de classe. C'est une langue avec classe de nom et classe de... D'accord.
Ça entraîne.
Oui, un quiproquo amusant.
Et ce sans introduire la langue elle-même, parce que la phrase elle-même est dite en anglais. Et c'est très amusant parce qu'il introduit les problématiques de la langue et de la langue extraterrestre sans inventer de langue.
Qu'il soit idiosyncrasique à la langue extraterrestre, c'est ça. Ah oui. Voilà, c'est ce genre de choses, je pense, qui peut être à la limite plus intéressante, à mon sens, que faire de l'exo blabla. Yann.
Oui, un petit ajout intéressant. En fait, imaginons qu'il y ait les sourds qui soient dans leur monde, effectivement un pays plus sourd, un pays où il n'y ait que des sourds. Donc en 1836, il y avait en fait un auteur qui imaginait un monde où il n'y ait que des sourds, que la langue des signes partout, vraiment, et que ben, en fait, l'entendant serait là en minorité et qu'il aurait besoin d'avoir un interprète. En fait, on imagine le monde à l'envers. Donc, c'est des choses qui peuvent s'imaginer. Ça peut arriver. Voilà.
Ah, ça, je veux avoir le titre. C'est formidable. Bah,
ouais, c'est une petite nouvelle. C'est très intéressant.
Oh, ça doit être fascinant. Ça serait un peu notre mot de la fin, parce que là, on me fait signe qu'il faut rendre...
Merci à vous.